Pendant plus de 10 ans, Gisèle Pélicaud a été sédatée, violée, filmée et livrée à plus de 50 autres violeurs par son mari. Du 2 septembre au 19 décembre 2024, s'est tenu un procès qualifié de hors norme et qui s'est déroulé aux yeux de tous, car Madame Pélicaud a pris la décision de lever le huis clos pour que la honte change de camp. Les 51 accusés, de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle, ont défilé à la barre pendant 3 mois. Ils sont chauffeurs routiers, ambulanciers, techniciens, jardiniers ou encore journalistes. Certains sont pères de famille. Ils ont tous été reconnus coupable de viol, tentative de viol aggravé ou pour deux d'entre eux d'agression sexuelle avec des peines allant de 3 ans à 15 ans de prison. Dominique Pélicaud a pour sa part été condamné à 20 ans de réclusion. Cette affaire a provoqué un élan de mobilisation générale, certains la qualifiant de procès contre la domination masculine. Elle a mis sur le devant de la scène le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles en France. L'affaire Mazan a mis au tapis le mythe du prédateur marginal et inconnu de ses victimes. Alors peut-on affirmer, comme beaucoup le supposaient, que l'affaire Mazan a opéré un tournant social dans notre regard sur les violences sexistes et sexuelles? Qu'en est-il de la lutte contre la culture du viol, particulièrement ancrée en France? Et sommes-nous enfin en mesure aujourd'hui de mener un débat collectif et serein sur le caractère systémique des violences faites aux femmes, tant physiques, verbales que psychologiques? En février 2025, près d'un mois et demi après la fin du procès, nous en avons discuté avec Annie Lochon, docteure en sociologie. Elle a notamment travaillé sur l'évolution des représentations sociales des violences sexuelles. Et Margot Boiscontier, doctorante en géographie, étudiant les violences conjugales dans les campagnes. Mais également avec Carole Morisset et Céline Morales, membres de l'association Oser le féminisme, et Mathias Couturier, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Caen. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'avais une première question, peut-être pour commencer ce tour de table. Comment individuellement vous avez vécu ce procès Mazan? Peut-être en commençant par vous, Céline.
Déjà choquée par la teneur de toute cette violence autour de Gisèle Pélicaud. Et en même temps, le fait de rendre tout cela public a permis au grand public de voir que ces agresseurs étaient monsieur tout le monde. Peut-être que cela va éclairer un petit peu notre société française sur l'idée qu'il n'existe pas des monstres, mais que les viols sont faits par des hommes lambda.
De mon côté, beaucoup de surprises de par l'ampleur en fait des personnes incriminées dans cette affaire. Beaucoup de respect vis-à-vis de Madame Pélicaud pour le fait de faire un procès ouvert à tous.
Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par le reste de la table? C'est vrai que c'est quand même un procès, on l'a dit, hors norme, donc c'est un terme qui a beaucoup été débattu tout de même, mais par le nombre d'accusés et le caractère très violent de ce qui a été mis à jour. Est-ce qu'il y a des réactions parties. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où l'affaire a éclaté?
Ouais, alors, on a commencé à en parler, mais je dirais au début, c'était un petit peu à bas bruit, parce que au début, ça a commencé comme une espèce de fait divers, qui progressivement un petit peu montait en puissance. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé quand même face à, je dirais vraiment, une première dans le monde judiciaire, en tout cas en termes de procès pour violences sexuelles. C'est la première fois, à ma connaissance, sur d'autres types d'affaires, évidemment, sur des grands procès en matière de crimes contre l'humanité ou autre, on a pu avoir des fois des effectifs aussi importants de personnes mises en cause, mais sur une affaire de violence sexuelle, c'est la première fois qu'on a affaire à un procès collectif d'une telle ampleur, en tout cas, ça c'est sûr. Et à ce titre-là,
Non, en fait, à la fin des années 90, il y a eu une affaire qui s'appelle l'affaire d'Angers, 66 accusés.
Oui, c'est vrai, mais c'était...
C'était la plus grosse affaire et ça concernait les victimes étaient des mineurs. Et ça concernait des faits d'inceste, de prostitution de mineurs et de viols et agressions sexuelles sur mineurs, 66 accusés. C'est la plus grosse affaire de viol en France. Donc, malheureusement pour moi, du coup, je n'ai pas été surprise par cette affaire. On sait qu'il y a un immense iceberg et de victimes qui ne sont pas connues des services. On le sait grâce aux enquêtes en VEF sur les enquêtes de victimisation qui ont commencé en 2000 avec l'enquête en VEF et puis toutes les autres enquêtes de victimisation qui ont suivi. Par rapport au nombre de personnes que ces enquêtes déterminent qu'ont été victimes d'agressions ou de viols au cours de leur vie et le nombre de personnes qui portent plainte, il y a un immense fossé, un immense décalage et il y a encore un tri au niveau de la justice qui fait qu'il y a très peu de condamnations. Parce que moi, ce que j'appelle la tragédie des violences sexuelles, c'est que les preuves, l'ADN disparaît très très vite. En 24 heures, en gros, l'ADN de votre violeur, il a disparu de votre corps. Donc, comment prouver ? Ça, c'est peut-être les juristes, le juriste. Voilà, il y a un gros problème de preuve pour les victimes.
Pour appuyer votre propos, on a quelques chiffres sur justement toutes ces personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Tu n'avais pas tout à fait les mêmes ?
Oui, moi j'avais les derniers chiffres.
Voilà, les derniers chiffres, 213 000 femmes victimes de violences. Sur ces 213 000-là, grosso modo, seulement 6% portent plainte. Et visiblement, au niveau des condamnations, on est à 0,7% de condamnations. Donc on se pose la question de la place de la justice et de ce qu'il advient de ce faible pourcentage de plaintes portées et de la reconstruction de ces femmes derrière, quoi.
Alors justement, vous l'évoquez, l'affaire Mazan n'est peut-être pas aussi inédite qu'on pourrait le croire, et pourtant c'était quand même un sentiment partagé, cette impression de jamais vu. Et on a parlé en introduction de la notion de domination masculine comme phénomène structurel très ancré dans notre société. En quoi l'affaire Mazan, elle peut être considérée comme beaucoup l'ont défini, comme le procès de la domination masculine, alors même que c'était pas tant le premier procès d'une telle ampleur?
Alors c'est le premier procès d'une telle ampleur s'agissant d'une victime majeure, de ce point de vue-là. Parce que si l'on met de côté, même si c'était une situation effectivement encore plus tragique, le cas des mineurs, la question, a priori, notamment depuis la loi de 2021, du consentement ne se pose plus pour les mineurs, dans la mesure où cette loi a exclu toute possibilité d'une argumentation ou d'un débat autour du consentement s'agissant des atteintes sexuelles sur mineurs. En revanche, effectivement, sur les majeurs, la question du consentement est très directement posée par l'affaire Mazan, dans la mesure où elle a été au cœur, alors avec évidemment un taux d'efficacité de zéro, mais elle a été évoquée par un grand nombre d'avocats en défense des personnes poursuivies dans le cadre de cette affaire, autour de cette question de l'ambiguïté, de la croyance au consentement et des apparences qui leur auraient été données par Dominique Pédicaud, s'agissant entre guillemets, une complicité de la participation de la victime à la situation dans laquelle elle était impliquée. Donc c'est vrai que c'est pour la première fois le procès qui pose vraiment le... Bon, il y en a eu d'autres, mais je dirais avec une telle ampleur, la question du consentement sous cet angle, dans le cadre judiciaire, oui.
Et si je peux réagir là-dessus aussi, effectivement, on a entendu beaucoup, donc dans différentes émissions, par différents éditorialistes également, le fait que c'était le procès du patriarcat, le procès de la masculinité toxique aussi, et également le procès de la culture du viol, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et effectivement, enfin, ce qui est ressorti de ce procès, c'est à la fois donc la banalité des accusés qui étaient sur le banc dans cette salle d'assises qui était aussi remplie en fait d'accusés, ce qui était peut-être, enfin, ce qui a suscité peut-être aussi l'émotion. Et donc le procès de la violence patriarcale de masse. Enfin, je pense qu'il y a aussi cette notion de masse d'accusés. Et puis, on a également eu avec cette affaire-là tout ce système aussi d'inversion de la culpabilité des victimes dans la défense des accusés notamment. Et on pourra peut-être élargir la discussion sur justement cette notion de culture du viol qui justement vient introduire différents mécanismes qui viennent aussi appuyer cette rhétorique de « elle l'a bien cherché parce que » et tout un tas de situations derrière. En fait, c'est un peu ça aussi que ça recouvre.
On va revenir un peu plus tard dans l'émission sur cette question de la culture du viol. Mais avant, je voulais peut-être vous faire réagir avec un propos de Jonathan Saulier qui a été interviewé par Le Monde le 19 novembre dernier. Donc, c'est un journaliste à la Provence qui a suivi le procès des viols de Mazan de très près. Et on lui a posé la question de savoir est-ce que, selon lui, le procès Mazan avait opéré un tournant social dans notre rapport au VSS en France, donc aux violences sexistes et sexuelles en France. Et il disait, les procès pour viol les violences conjugales qui illustrent l'omniprésence de la violence masculine, j'en vois toute l'année. Avec le temps, le comportement des hommes ne change pas. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ?
Mmh. Oui. Moi, enfin oui, personnellement, oui. J'ai plutôt l'impression que ça s'est accru, en fait, le problème du sexisme, là, en France, en tout cas. Et il y a eu une enquête justement qui est sortie il n'y a pas très longtemps du Haut Commissariat à l'égalité et qui montrait que 94% des femmes estiment qu'il est plus difficile d'être une femme aujourd'hui, en fait.
Et comment on explique ça? Alors que pourtant, on semblait être dans cette quatrième vague du féminisme où la parole des femmes s'ouvrait, où la prise de conscience était peut-être plus marquée. Comment on...
C'est un petit peu à double tranchant. Je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience d'un côté, il y a une balance, mais que le mythe du viol, du violeur, de la victime, il est quand même toujours présent. Et ça, c'est un bagage culturel qu'on a. C'est notre histoire. C'est oui, effectivement, le patriarcat.
Pour l'instant, il y a une ouverture médiatique de cette parole. On a pu la constater avec Judith Godrèche dans le milieu du cinéma, par exemple. De cette ouverture de parole, ce qu'on souhaite derrière, c'est qu'il y ait une éducation qui soit faite à la vie relationnelle, affective et sexuelle, notamment pour nos jeunes générations. Je pense que le point fort, si on veut faire véhiculer, mettre fin à ce patriarcat, ça va passer en priorité par l'éducation de nos futures générations, puis derrière, à ce qu'on mettra en place juridiquement pour que chaque situation soit nettement évaluée à sa juste valeur, finalement.
Pour compléter pour ce discours, moi je n'ai pas étudié la première vague, mais je connais bien la deuxième vague. Il y a une partie des revues féministes de la deuxième vague qui sont mises en ligne sur Femmes en rêve, donc les auditeurs, les auditrices pourront aller vérifier mes propos. En fait, ce qu'on constate en examinant ces revues, c'est que les discours, les arguments des féministes, dans les années 70, donc les féministes de la deuxième vague et les féministes d'aujourd'hui, ils sont très proches, les arguments sont très proches, les exemples sont aussi très proches, malheureusement. Donc en fait, moi j'ai plus l'impression qu'il y a une continuité dans ce discours féministe, parce que la société n'a toujours pas, en quelque sorte, pris conscience. C'est quand même une partie de la société qui a pris conscience. Mais en tout cas, derrière, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux et des besoins. C'est ça aussi qu'il faut dire. Et deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est pas que ces phénomènes se sont tant accrus. Il suffit d'écouter des témoignages de femmes dans les années 80 pour voir à quoi, quel était leur vécu, quel était leur quotidien, et se rendre compte que s'il y a quand même eu quelques progrès, mais par contre, c'est notre sensibilité qui a évolué. Il y a des choses qui étaient acceptées socialement qui ne le sont plus du tout. Et ça joue aussi sur nos perceptions, nos représentations et nos manières d'analyser les problèmes.
Effectivement, on a eu plusieurs procès qu'on met en avant ces problématiques, mais on a vu aussi depuis une dizaine d'années comment la porte elle peut aussi se refermer assez rapidement. On a Adèle Haenel qui s'est exprimée très récemment. Et typiquement, dans le cas du procès de Christophe Rougiat, donc c'était en 2019, on en a beaucoup parlé, il y a eu un intérêt médiatique assez important. Et puis en fait, quelques mois après, il y a eu les Césars, où Roman Polanski a été récompensé. En attendant, Adèle Haenel, elle a quitté le monde du cinéma. Donc en fait, il y a un gros backlash aussi, un retour de bâton de ce mouvement de dénonciation qu'il faut avoir en tête aussi. Et qui permet peut-être aussi de garder une certaine vigilance par rapport à parfois la bulle que peut créer cet intérêt médiatique très important. Parce qu'en fait, c'est une bulle qui grossit. On est encore dedans avec le procès Pellico. Je pense qu'on est justement sous le coup de l'émotion encore, et c'est bien normal parce que voilà, c'est un procès qui était d'une ampleur assez spectaculaire pour certains médias en tout cas. Mais on reste quand même dans une société et avec des politiques publiques qui une certaine forme de résistance à réfléchir aussi à la dimension systémique, dimension aussi patriarcale de toutes ces oppressions là. Je pense qu'on veut pas y réfléchir en réalité, et ça se retrouve dans les politiques publiques aussi. On y reviendra, je pense, tout à l'heure.
Oui, et puis en matière de faits divers, il y a une mémoire qui est aussi très courte. Là, on se demande si l'affaire de Mazan ne va pas être un tournant social. On avait dit la même chose pour MeToo, et c'est pas si vieux, MeToo. On avait dit la même chose en 86 avec l'ouvrage d'Eva Thomas. Et on peut remonter comme ça dans le temps.
Au procès d'Aix. Qui avait déjà été présenté comme une bascule en 1978, je crois.
Oui.
Des années 70. Oui, on reviendra sur cette
question. Les textes d'Anaïs Nin aussi. Enfin, on peut remonter très très loin comme ça. Et en fait, c'est ce discours qui revient de manière particulière. Et en fait, un fait divers chasse l'autre et on n'a pas de mémoire de ces faits divers. Et c'est ça qui est tragique. C'est pour ça. De mon point de vue, qui rajoute à la tragédie des victimes, en fait, c'est que à chaque fois, le discours, il apparaît progressiste, mais derrière les discours,
pas beaucoup de faits, il se passe pas énormément de choses.
Ben ouais. Voilà, c'est un peu un pétard mouillé, quoi.
Il y a toujours à la situation ouais. du début.
Oui, ça évolue.
Avec une petite avancée,
voilà,
peut-être
ça évolue
dans la prise de conscience.
Très très lentement, mais... les mentalités n'ont pas changé tant que ça, finalement. On le voit bien, la société patriarcale, elle est quand même toujours très ancrée.
Il y a une autre affaire qui avait fait les gros titres, c'est l'affaire DSK. Tous les regards se sont tournés vers la France et à l'époque, on riait beaucoup du directeur du FMI. Et pour un certain nombre de pays, le viol faisait presque partie du patrimoine français, avec notre vision du romantisme intrinsèquement lié au comportement violent. Les journalistes Marine Pradel et Anne-Cécile Genre ont couvert l'affaire DSK à New York en 2011 et en 2023, elles ont rouvert leur rush et se sont lancées dans la création d'un documentaire audio immersif en 8 épisodes qui nous montre un nouveau récit de cette affaire avec des enjeux qu'on n'avait peut-être pas forcément compris à l'époque. Dans le troisième épisode, titré « Des histoires de bonnes femmes », elles reviennent sur l'omniprésence de la culture du viol en France quand l'affaire a éclaté. On écoute.
En France, pour défendre DSK, il y a eu les théories du complot qui ont été relayées, il y a eu le troussage de domestiques, il n'y a pas mort d'homme. Il y a eu Yvon Levaille, donc, qui est l'ancien mari de Sinclair, qui a dit que pour un viol, il faut un couteau. Catherine Millet avait sorti à peu près la même chose, la directrice de Art Press, etc., etc. Et en France, en fait, il y a quelque chose de très caractéristique, c'est que systématiquement, on va évoquer une certaine façon d'envisager les relations entre hommes et femmes, une certaine façon d'envisager l'hétérosexualité qui est fondée sur une asymétrie entre les sexes et qu'en fait, au fond, les relations hommes-femmes, ça serait fondé sur la violence.
Aujourd'hui, on en est où sur ce regard? 10 ans plus tard, on en est où sur notre regard sur la culture du viol en France?
Elle semble omniprésente, notamment dans le cinéma. Je reviens encore une fois sur le cinéma, mais on... Voilà, je pense à ce film de James Bond dans lequel James Bond est en train de lutter contre cette femme et finalement le mâle dominant prend la suprématie sur cette femme et finit par l'embrasser. Voilà, au détour d'un baiser volé, on est pleinement dans ce patriarcat-là cinématographique. On peut l'être aussi dans nos sphères familiales, amicales, dans la mesure où tout propos sexiste, sexuel, vise à cette domination de l'homme sur la femme. Je pense que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, les mentalités, il y a une forme de prise de conscience, mais on grandit, on évolue là-dedans, et il y a une forme de misogynie intériorisée, même chez les femmes. Tant qu'on n'aura pas dépassé ce stade-là, la culture du viol sera toujours très présente en France.
Je dirais pas que c'est tant... Excusez-moi, j'interviens. Je dirais pas que c'est tant la misogynie intégrée, c'est que c'est dès le début de l'éducation, en fait, la société patriarcale, elle est aussi construite sur les rapports de genre. Et les filles et les garçons ne sont pas éduqués de la même façon. Et très très vite, les filles, elles apprennent à intégrer qu'il faut être sage, il faut dire oui, il faut. Et du coup, il n'y a pas besoin d'intégrer cette misogynie, puisqu'on constate déjà que dans l'enfance, les tâches ménagères ne sont pas les mêmes. Les filles en font plus, par exemple, et ont moins d'argent de poche. Donc les inégalités, elles sont intégrées aussi dans l'enfance. Voilà, ça fait partie, le système genre et l'éducation fait partie de ce tout global qui est la société patriarcat, qui fonctionne grâce à un certain nombre d'outils, dont le genre, dont la culture du viol, dont la domination masculine, pour se produire et se reproduire en permanence.
Et c'est des images avec lesquelles on est constamment entouré.
Et c'est des images, des faits, voilà.
Moi, je travaille avec des enfants, ne serait-ce qu'ouvrir un catalogue de jouets à l'approche de Noël, on est encore sur cette image des petites filles à côté des poupées et de ces garçons à côté des petites voitures. Et ça paraît c'est très stéréotypé et en même temps, c'est l'environnement dans lequel on évolue encore aujourd'hui en France, malheureusement.
Les couleurs, l'habillement, tout est indirectement, involontairement en fait. On n'y réfléchit pas, je veux dire, c'est quelque chose que l'on a intégré.
Oui.
Malgré nous, on a été baigné dedans.
Se déconstruire, c'est pas évident.
Voilà. Oui. Et c'est en ça que je montrais tout à l'heure l'importance de l'éducation des enfants, la place des garçons dans une cour d'école, la place du football dans une cour d'école, et les filles qui sont dans cette périphérie. Donc il y a plein de projets pédagogiques à mettre en place, justement, pour qu'on quitte cet univers-là et cette domination genrée masculine dans notre société.
Si je peux réagir par rapport à ça, justement, en géographie, donc moi je fais de la géographie féministe, j'ai ce positionnement-là. Et effectivement, c'est ce qu'on observe aussi dès l'enfance, c'est que non seulement il y a une socialisation genrée qui est différenciée, mais il y a également des pratiques spatiales qui sont différenciées. Et dès l'enfance, dès la cour de récréation, on a des petits garçons qui vont apprendre à être libres, à explorer, à pratiquer différents types d'espèces, à l'inverse des petites filles à qui on va justement apprendre le moins de place possible. Et ça continue donc tout au long des différentes étapes de socialisation dans la vie des individus. Et ce que ça produit, tout ça, donc ça a différents effets évidemment, mais ça, toute cette culture du viol, des violences et de la culture patriarcale en général, ça va aussi introduire un certain flou et une confusion aussi pour identifier les différentes formes de violence. On l'a vu dans le cas du procès de Dominique Pellicot et des 50 accusés, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans certains dossiers qui concernent des violences conjugales, avec une difficulté à nommer ces violences parce que c'est dans le cadre du couple, c'est dans le cadre de la famille, et on a appris justement à avoir une certaine conception du couple, de la relation dans cette société-là. Et puis tout un système d'inégalité avec un groupe qui va tirer des bénéfices par rapport à un autre, évidemment.
C'est là qu'il faut introduire la notion de continuum des violences, qui est une notion qui date aussi dès qu'on doit à la deuxième vague, et en fait qui montre que les violences que subissent les femmes pour intégrer leur rôle commencent dès l'enfance et se poursuivent tout au long de la vie. Alors jusqu'à présent, les études disaient qu'après 35 ans, normalement, les femmes vivaient moins de violences, mais l'affaire Pellicot vient remettre en cause, et peut-être que les violences que subissent les femmes âgées ont été sous-estimées jusqu'à présent, ou peu déclarées, parce que elles-mêmes ayant intégré ce vécu dans leur éducation, elles ne le pensent peut-être pas comme des violences. Donc là, il faut retravailler les questionnaires pour qu'elles s'identifient elles-mêmes comme victimes de violences.
On a beaucoup parlé du caractère très banal et ordinaire des accusés pendant l'affaire Pellicot. Qu'est-ce que cette banalité, on a déjà rapidement répondu à cette question, mais qu'est-ce que cette banalité dit de la réalité des violences sexistes et sexuelles aujourd'hui en France ?
Déjà, la banalité, elle est connue également au moins depuis les années 70. Encore une fois, je n'ai pas étudié la première vague, donc je ne sais pas si ce discours existait déjà pendant la première vague. Mais déjà, les féministes des années 70 dénonçaient cette banalité. Je pense notamment à Leïla Sebar, à Martine Sorti, qui on peut citer d'autres. Suzanne Breumiller avec son livre Le viol en 1976. Marie-Odile Fragier avec aussi un livre qui s'appelle Le viol en 1976, où ce sont des femmes qui analysent, qui regroupent des faits divers, les regroupent, les analysent et montrent leur caractère commun. Et du coup, cette banalisation, elle est déjà identifiée au moins depuis les années 70. Et là aussi, ça montre combien c'est difficile pour les féministes de relayer leur discours. Parce que ça, on l'a complètement oublié de notre mémoire collective.
91% des victimes de viol ou de tentatives de viol connaissent leur agresseur, et ça c'est quelque chose qui a notamment été mis en avant par l'affaire Mazan. Est-ce qu'on est enfin sorti de ce mythe selon lequel l'agresseur serait un prédateur étranger, marginal, inconnu de ses victimes ? Est-ce qu'il y a enfin une conscience collective de ça, ou ça reste un chiffre finalement qui ne percute pas ?
Moi, je pense que c'est un chiffre qui ne percute pas.
Pourquoi ?
On pense que le violeur, il fait pas partie de notre environnement, alors que les trois quarts du temps, voire plus que les trois quarts du temps, c'est le cas. Mais il y a un voile, en fait, qui se met, en fait, sur la situation. Le comportement de cette personne qui est déplacée n'est pas considéré comme déplacé parce qu'il est intégré dans une pratique, dans quelque chose qu'on ne dit pas. Et donc, du coup, tant qu'on n'aura pas agi, toujours au cœur du problème, tant qu'on n'aura pas agi sur la conception, en fait, d'un schéma familial normal, eh ben, on ne pourra pas déplacer, enfin, on ne pourra pas changer les mentalités.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, au plan strictement institutionnel, le droit, les structures juridiques portaient un petit peu cette idée que ce qui se passait à l'intérieur de la famille était une affaire privée et que ça ne regardait finalement que peu ou pas l'autorité judiciaire ou administrative. Alors, dans les cas les plus graves, bien sûr, je pense aux violences conjugales pour lesquelles pendant très très longtemps, en fait, c'était une politique vraiment assumée des parquets, par exemple, de ne pas poursuivre les violences physiques. Les violences conjugales, donc à l'égard des femmes, sauf, disait, je crois, le procureur général Moore dans son réquisitoire dans un arrêt célèbre, sauf quand il y a scandale public ou que, en gros, les faits sont publics, enfin, qu'il y a des traces en quelque sorte. Mais je dirais, à l'intérieur, de la sphère familiale, globalement, il y avait cette idée de la puissance, de la potestas du pater familias qui pouvait imposer ses normes. Le Code civil le prévoyait d'ailleurs. Le Code civil de 1810 faisait littéralement du père et de l'homme le chef de famille. Alors, bien sûr, le Code civil et le Code pénal n'ont jamais, entre guillemets, autorisé les violences sexuelles, encore qu'il faudrait mettre de côté l'hypothèse du viol conjugal, qui n'a été réprimé légalement qu'à partir des années 1980. Suite au changement de définition qui a été introduit justement après le procès d'Aix dans la législation. Donc, globalement, on prendrait très longtemps l'idée de gérer la puissance et de la violence finalement qui était inhérente à l'exercice de la puissance paternelle était quelque chose qui était assumé et intériorisé finalement par le système social, le système juridique, le système institutionnel. Les choses ont commencé à se débloquer effectivement suite à une série d'affaires et de réformes à partir des années 60, notamment dans l'évolution du droit civil de la famille, des années 80 dans le droit pénal, mais il reste quand même cette idée que, oui, bon, voilà, peut-être que ce qui se passe à l'intérieur du cercle familial regarde la famille. Et pourtant, c'est vrai pour les viols, c'est vrai pour les homicides et des violences en général. L'essentiel, on le dit parfois, la famille peut être paradoxalement, alors qu'on la pense souvent comme un lieu de protection, une solidarité, un des lieux les plus dangereux, en réalité. Puisque c'est vrai pour le viol, c'est vrai pour les violences physiques, c'est vrai pour les homicides. La plupart des infractions violentes, l'immense majorité, sont commises dans le cadre de la famille. C'est-à-dire au contact des gens avec qui on vit en permanence, en réalité.
Ça me fait penser un petit peu à l'expression « on règle ses problèmes en famille », en fait.
On limpe son linge sale en famille. Voilà. Et effectivement, pour avoir un petit peu exploré, en termes d'histoire des institutions, les discours, les politiques criminelles qui étaient assumées et tenues, ostensiblement, hein, jusque dans le courant du XXe siècle, c'était à peu près délibéré de ce point de vue-là. Alors, soit, je dirais, comme une forme de pratique judiciaire, mais aussi des fois comme une forme de discours législatif assumé et délibéré autour de la question, notamment, par exemple, du viol conjugal. Ou de la non-répression du viol conjugal, disons plutôt, pendant des siècles, j'oserais dire, jusqu'aux années 1990. En réalité, les premiers cas de condamnation arrivés à la connaissance de la Cour de cassation, c'est 90 et 92, en fait.
Moi, je vais soulever une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que tous les hommes sont des agresseurs sexuels? C'est une question qu'on se pose. Selon le sondage de Nous Toutes, qui a été fait en 2020 auprès de 100 000 femmes, 9 femmes sur 10 ont ressenti une pression au sein de leur couple quant au fait de devoir avoir un rapport sexuel. Donc, ça soulève cette question du positionnement de l'homme, de la femme dans ce couple hétéronormé. Et je soulève cette question, qu'en est-il du désir féminin? Qu'en est-il du plaisir féminin? Qu'en est-il des études faites autour de la sexualité féminine? La femme subit la domination de son conjoint au quotidien, ne serait-ce que dans cette idée de bah, j'ai pas envie, voilà, je vais m'y conformer parce que c'est ce qu'il attend.
Et alors, justement, d'un point de vue de ces violences qui sont dans une sphère très intime, très personnelle, comment on lutte contre ces violences intrafamiliales alors même qu'on est dans une sphère qui reste quand même très fermée, celle de la famille, de la maison, du foyer?
Bah, je pense que c'est tout le questionnement autour du consentement, d'apprendre à dire non et d'apprendre à recevoir ce non au sein même de la sphère conjugale. Voilà, consentir, c'est exprimer clairement, librement son choix, c'est recevoir le choix de l'autre, c'est se dire que ce consentement, il est spécifique à un moment donné et que c'est pas parce qu'on a consenti un soir que le lendemain, on est de nouveau dans ce consentement. Qu'à tout moment dans l'acte, il y a ce côté réversible, qu'on peut se rétracter. Voilà, il y a vraiment un énorme travail à faire quant à cette notion de consentement et l'éducation qu'on peut amener autour de ce consentement.
De bien intégrer que ce n'est pas un acquis, mais il n'y a aucun acquis.
Oui, c'est ça, le consentement ne doit pas non plus être un piège, parce qu'on voit aussi que le oui ou le non, il peut être produit dans certaines conditions. Et donc, il faut faire attention, là, il y a un projet de loi qui est en cours, il faut faire attention comment ce consentement va être défini dans la loi. Parce qu'en fonction des législations, les condamnations sont plus ou moins nombreuses. Par exemple, la loi anglaise est beaucoup critiquée, parce qu'elle a, qui intègre le mot consentement, est beaucoup critiquée, parce qu'elle n'a pas amené tant de progrès que ça, contrairement en Suède, où les condamnations ont augmenté. Donc, il y a un point de vigilance là à avoir sur comment ce futur texte de loi va définir ce que sera le consentement. À mon avis, ça ne suffira pas si les mentalités ne changent pas.
Il a forcément des limites, enfin, le terme de consentement ou de non-consentement. Il y aura forcément des situations dans lesquelles il n'est pas possible, enfin, de l'évaluer. Alors, je pense aux gens qui ont une emprise sur une autre personne. Ce n'est pas le fait de dire non ou de dire oui qui va acter un consentement ou pas.
Je voudrais simplement revenir un instant sur les violences intrafamiliales. Il y a les violences conjugales qui sont un peu les... Je ne saurais pas comment qualifier, mais celles qui sont les moins vues, les plus tabous, les plus cachées, elles sont très souvent verbales et psychologiques quand les violences physiques, elles, sont la partie immergée de l'iceberg. Dans la plupart des cas, il y a un contrôle coercitif qui est instauré par le conjoint violent. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle coercitif? Je pense que ça peut être peut-être bien de revenir sur ce terme et de déconstruire un peu ce contrôle qui est mis en place dans les violences conjugales.
Donc le contrôle coercitif, c'est pareil, hein, c'est une notion qui est pas nouvelle, qui a plus d'une cinquantaine d'années, qui a été développée par Evan Stark notamment, mais développée aussi par des militantes et chercheuses féministes. Et en fait, ça va être tout un système de normes, de règles au sein du couple, la plupart du temps qui sont aussi associées à des rôles genrés dans le couple hétérosexuel, à l'assignation à des tâches spécifiques en fonction de son genre. Et donc, ce contrôle, il va se déployer dans différentes sphères de la vie de la femme victime. Il va aussi avoir une dimension spatiale. Et c'est aussi ça qu'on garde, nous, en géographie, c'est que les déplacements vont être limités dans le cadre de ce contrôle coercitif par différents facteurs. La jalousie, enfin, l'excuse de la jalousie, en tout cas, peut en être un. Donc, c'est vraiment avoir la main sur absolument toutes les libertés, en fait, de la femme victime dans un couple hétérosexuel. Donc, la plupart du temps, organisée par un conjoint agresseur. Mais ces dynamiques de contrôle là, dans le couple, donc, qui forment les violences, on peut aussi les retrouver dans d'autres mesures, dans des couples qui ne correspondent pas à ce schéma dominant qui est le schéma hétérosexuel. Donc ça, on a très très peu de recherches en France qui traitent du sujet aussi des violences conjugales dans les couples LGBT. Mais cette mécanique du contrôle et de cette coercition autour de l'assignation à des rôles genrés, elle est assez documentée en fait depuis les années 70.
Alors, la notion de contrôle coercitif est en cours de discussion hein, devant l'Assemblée nationale, enfin le Parlement de manière générale à l'heure actuelle, dans le cadre d'une proposition de loi sur les violences faites aux femmes et à caractère familial. Donc, on n'est pas encore face à du droit en vigueur, mais il y a donc, au titre de cette proposition de loi actuellement débattue, la création d'un article 222-14-3-1 du Code pénal, qui, en gros, viserait à définir et à réprimer l'exercice d'un contrôle coercitif à l'intérieur du couple. Ce qui est un texte qui est très intéressant, qui pose néanmoins des problèmes de définition. C'est pas évident d'arriver à circonscrire juridiquement un comportement de ce type. Ma foi, voilà, il y a un travail en cours au Parlement à l'heure actuelle sur la définition et l'introduction d'un délit de ce type dans le Code pénal.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Riposte. Merci à Annie Lochon, Margot Boisgontier, Carole Morisset, Céline Morales et Mathias Couturier pour leur participation. Pour découvrir la suite de cet entretien, rendez-vous dans le deuxième épisode de Riposte, déjà disponible sur phoenix.fm et sur vos plateformes d'écoute.